Vous écoutez le Serment d'Hippocrate, un podcast où l'on parle des choses qui affectent notre santé mais ne se trouvent pas en pharmacie. Ici, on s'intéresse à l'alimentation, au sommeil, à la méditation ou à l'activité physique. Tout ce qui a un impact profond sur notre santé est bon à découvrir, étudier et discuter. On y trouve des médecins, des professionnels de la santé, des experts, mais aussi monsieur et madame tout le monde, parce que la santé est souvent une aventure personnelle. Bienvenue au Serment d'Hippocrate. Aujourd'hui, j'accueille Aurélia Boulanger, championne de France de triathlon, elle, en 2019. Elle a fini une école d'ingé dans le bâtiment durable et est actuellement en alternance de coaching pour le triathlon. Elle privilégie une alimentation végétale et pratique également, ça ne va pas vous surprendre, de la course à pied minimaliste. Bonjour Aurélia, bienvenue au podcast.
Bonjour Ben, merci de me recevoir. Donc, moi c'est Aurélia, j'ai commencé le triathlon finalement assez tard, il y a 2-3 ans.
Tu as quel âge, si c'est pas indiscret, qu'on situe un petit peu?
J'ai 24 ans.
D'accord.
24 ans, j'ai découvert en fait le triathlon sur le tard et j'ai tout de suite accroché avec le sport. C'est pour ça que maintenant, je me donne à fond dans ma passion et tout en suivant une formation de coaching en triathlon, donc un DEGEP. Voilà.
Tu faisais un autre sport avant ça?
Alors, j'ai commencé par la course à pied. Donc avant, j'étais gymnaste, puis ouais. Je me suis mise à la course à pied. J'ai découvert le trail. J'ai découvert le trail en même temps que en fait la pratique minimaliste. Donc j'ai commencé directement à courir en minimaliste sur terrain trail. Et puis j'ai rapidement découvert le triathlon. Et du coup je me suis blessée, j'ai eu une entorse en fait en trail et du coup je me suis axée plus sur le triathlon à ce moment-là. C'est là où je me suis lancé le défi de faire les championnats de France. De triathlon, mais j'aime beaucoup beaucoup le trail et je compte bien me remettre sur les sentiers en compétition aussi.
D'ailleurs, avant que les gens se disent encore un énième épisode sur le minimalisme que Ben essaie de nous imposer à tout prix, je précise quand même que c'est quelque chose que tu pratiques certes, mais pas de manière exclusive. Donc on n'est pas parti pour refaire un 4e ou 5e épisode, on va parler de ça longuement. C'était pas le sujet du jour, mais j'ai pris la peine de le mentionner. Donc, justement, sur cette découverte du triathlon, donc tu t'es concentré là-dessus. Et qu'est-ce qui t'a retenu un peu dans cette pratique?
Tu m'as retenu?
Ouais. T'es accroché sur quoi?
Alors, à la base, donc, je cours plus. J'ai beaucoup, beaucoup accroché avec le vélo. Dès que je suis montée sur un vélo, j'ai commencé à faire des cols. J'ai adoré ce sport. Donc moi, dès que ça monte, que ce soit en course à pied, en vélo, j'adore ça. Ce qui a été plus dur, c'est la natation parce que je suis pas du tout une nageuse et quand on se met plutôt tard sur le triathlon, c'est souvent ce qui pose problème. D'ailleurs, pour les championnats de France, ces 3 km de natation, c'est pas mon point fort. Ça a été le point à travailler. Mais en fait, l'enchaînement des 3 efforts. De se donner un objectif, de faire un triathlon longue distance, c'est énorme. Donc c'est vraiment l'enchaînement de 3 sports, dont le vélo et la course à pied, que j'aime particulièrement.
Et cette idée du coup de rajouter un sport dans le truc, c'est un sport qui t'intéressait finalement peut-être un peu moins, qui était la natation, ou en fait tu t'es dit ça vient avec, ça me plaît quand même si je suis pas très, très apte?
Alors je me suis vraiment mise à la natation pour le triathlon. D'accord. Donc quand j'ai voulu faire mon premier triathlon, je faisais pas 50 mètres dans une piscine, c'était vraiment compliqué, mais c'est vraiment le challenge de se dire j'apprends à nager, je vais apprendre à faire 750 mètres pour la première fois en crawl et petit à petit aller plus haut, plus haut. Et en fait, même si le sport en soi, c'est pas une passion, c'est le fait de progresser. Et du coup, ce qui est bien, c'est d'avoir une énorme marge de progression quand on part de pas grand chose. Alors qu'après, quand on devient plus expert dans une discipline, c'est les progrès, on les compte à petite dose, c'est vraiment infime. Et c'est l'optimisation d'ailleurs de la performance. Après, quand on rentre là-dedans, c'est vrai que ça fait en même temps peur, mais en même temps, on optimise, on veut tout optimiser pour devenir le plus performant possible.
D'ailleurs, je pense juste à un truc. J'ai dit que tu étais championne de France de triathlon L en 2019, mais je n'ai pas précisé ce que c'était L. Et c'est vrai que tu nous disais, enfin, au début, je te demandais si ça équivalait à la distance du demi-Ironman, et tu m'as dit que ce n'était pas tout à fait pareil. Tu peux juste nous donner des distances, que comme ça, les gens savent un petit peu quand même ce que c'est, parce que tout le monde n'est pas forcément triathlète ou intéressé par ce genre de sujet.
Et alors, comme tu dis, le L, ça équivaut à peu près au Half Ironman. Pour la natation, le Half Ironman, c'est 1900 mètres, alors que le championnat de France, c'est 3 km. Après, en vélo, ça dépend un peu des parcours, mais en gros, c'est 90 km. Et en course à pied, c'est 20 km.
D'accord.
Donc vélo-course à pied, ça se vaut à l'Half.
Ouais, c'est assez proche comme distance quand même. Mais là, c'est vrai que c'est
proche,
du coup, sur la natation que ça te différencie beaucoup.
Ouais.
Et alors, comment est-ce qu'on passe de je découvre un sport à 3 ans plus tard, je me présente au championnat de France? Surtout quand on n'a pas démarré par, on va dire, une filière classique qui est je pratique loisir en tant qu'enfant et je me démarque et du coup, je me retrouve dans les jeunes espoirs de la discipline. Enfin, toi, tu es arrivé après tout ça, quelque part. Donc, comment est-ce que tu passes de j'ai découvert une activité sportive et tout d'un coup, boum, je suis au championnat de France quelques années après.
Et ben, ça a commencé donc sur mon premier triathlon où ça avait été très dur psychologiquement et physiquement. Enfin, j'en ai vraiment bavé. Et en fait, c'est en arrivant la ligne d'arrivée, c'était incroyable. Enfin, je me suis vraiment sentie super bien. Je me suis dit, il faut absolument que je recommence. Donc, j'ai recommencé. Je me suis inscrite dans un club de triathlon. Et quand j'ai commencé mes premières vraies compétitions entraînées, j'ai tout de suite en fait fait des bonnes performances et c'est là que ça m'a encouragée dans ma pratique. Mais donc quand mon premier triathlon au final, j'étais la seule sans combi, j'en ai vraiment bavé. C'était pas du tout inné à la base de faire des performances. Donc du coup c'est les podiums en fait qui m'ont poussé à aller plus loin.
T'as quand même réussi à faire des podiums assez vite, hein, c'est ça?
Ouais, assez rapidement. Bah, mon premier longue distance, mon premier M aussi. Je suis arrivée première féminine à Vendôme.
Ouais.
Après j'ai fait le L du Ventoux-Man. Bon là je suis pas arrivée première, mais j'ai l'objectif de refaire d'ailleurs ce triathlon qui a été un peu, pas un échec, mais j'ai eu une grosse hypo sur le Ventoux et j'en ai vraiment bavé. J'ai envie vraiment de le refaire pour faire mieux.
Ouais, donc tu as quand même réussi à te positionner assez tôt finalement, à avoir des résultats très intéressants. Donc clairement, c'est quelque chose qui te réussissait plutôt pas mal.
Ouais, en fait, souvent je sortais très loin en natation. Enfin, très loin de tout est relatif, mais j'arrivais à rattraper mon retard en vélo. Et ensuite, en course à pied, j'arrivais à maintenir l'écart avec les autres concurrentes. Donc, en fait, c'est vraiment le vélo qui m'a permis de gagner mes triathlons.
Et du coup, tu as fini par en arriver à ce fameux championnat de France. Hein.
Donc,
à force
voilà,
de quelques
en fait,
podiums, est-ce que tu nous racontes un peu la journée?
Au final, comme il y a beaucoup de triathlons, souvent il peut y avoir très peu de concurrence sur un triathlon un peu lambda du coin. Du coup, j'avais envie de me comparer un peu plus à du niveau. Et donc, dans ce cas-là, bah, c'est soit le label Alpha Ironman, mais ça, il faut prévoir un an avant. Moi, je suis arrivée un peu tard sur le triathlon, je ne me suis pas lancée là-dedans. Et du coup, bah, les championnats de France de longue distance se sont présentés. Je me suis dit, allez, je me lance le défi de le faire. On va voir ce que ça donne. Je n'avais pas du tout prévu de faire un podium sur ce triathlon. Je suis sortie septième de l'eau. Donc, je n'étais pas en fait très loin des autres concurrentes, mais voilà, j'étais pas devant. Je suis sortie de la transition, j'ai fait une transition express, je suis sortie troisième du parc à vélo.
D'accord. Donc, du coup,
Et
pour la deuxième étape qui est le cyclisme, donc des 90 km, c'est ça, hein? Donc,
exactement,
ok.
je suis montée sur mon vélo et là, j'ai rattrapé les deux concurrentes qui étaient devant moi au bout de 30-40 km. Et là, je me suis dit, profite de ce moment, Aurélia, t'es devant pour la partie vélo, t'es première féminine, c'est incroyable. Profite vraiment, il y en a d'autres qui vont arriver. Je le savais parce qu'il y avait des concurrentes qui étaient très bonnes cyclistes. Il y avait la championne de France de duathlon à longue distance. Et j'attendais que ça arrive, puis en fait, elles ne sont jamais arrivées. J'ai posé mon vélo. C'était incroyable. J'avais mes parents qui criaient, c'est première féminine. C'était énorme. Là, j'ai enfilé mes chaussures, je suis partie en courant. J'avais les jambes un peu lourdes. La course à pied, c'est un peu moins bien prévu, passé que prévu. Et j'ai fait les 20 km avec 8 minutes d'avance sur la deuxième.
Oui, donc tu avais quand même un peu de marge, mine de rien.
Donc j'avais de la marge en fait. Je me suis mis beaucoup de pression sur la course à pied parce que je sentais que je n'étais pas dans une forme énorme. Donc je me suis dit, elle va me rattraper. Et puis finalement, elle n'est jamais arrivée. Et en fait, j'avais beaucoup de marge.
Ah, c'est super ça. Et du coup, quand t'es arrivé sur la ligne d'arrivée, en fait, tu t'attendais presque à ce qu'il y ait quelqu'un qui te souffle dans le cou et qui passe au dernier moment, c'est ça? Ou tu savais un petit peu quand t'es arrivé vers la fin
Et ben en fait,
que ça allait être pour toi?
comme il y avait deux tours, les personnes qui m'encourageaient ou qui étaient au ravito m'avaient prévenu que la deuxième en fait était vraiment très loin.
Ouais.
Donc
Donc t'as pu
j'avais
te
pas
détendre.
besoin de me faire un sprint à la fin.
Oui, donc tu as pu vraiment savourer ton truc quelque part en arrivant.
Ouais, je l'ai bien savouré. C'était un moment vraiment avec beaucoup d'émotions, avec ma famille à côté. C'était très très intense.
D'ailleurs, ça, j'en profite pour satisfaire ma curiosité, parce que c'est un sport que je connais de loin, puisque je ne le pratique pas. Sur un triathlon comme ça, à la fin, tu te retrouves à courir à peu près à quelle vitesse? Parce que
Alors,
tu dois être un peu crevé, mine de rien.
oui. Donc, bah, à la base, à sec, j'avais fait un semi l'année d'avant en 1,25. Et
Ce qui est déjà un très très bon temps pour le coup.
pour un ordre d'idée, du coup, là, j'ai mis 1,34.
D'accord. Ok, oui, donc
1,34.
ça reste quand même une bonne allure, hein, déjà.
Ça reste une bonne allure, mais il y a quand même, enfin, quand on regarde la différence des temps, après, je pense que je peux m'améliorer en triathlon sur la course à pied. Là, j'avais vraiment les jambes lourdes par rapport à d'habitude. Donc, je pense que, y a moyen de faire un meilleur temps par rapport à son temps à sec.
Oui,
Enfin, un
enfin,
meilleur
c'est.
temps, je veux dire, meilleur temps que ce que j'ai fait. Je veux dire, j'aurais pu mettre peut-être 5 minutes de moins. Il y a moyen, je pense, d'optimiser ce temps.
Bah oui, bah du coup, c'est sûr que, enfin, quand même, après avoir fait donc 3 km de nage, plus 90 bornes de vélo, pouvoir faire l'équivalent d'un enfin, 20 km ou même un semi en 1,35, c'est quand même déjà pas donné à tout le monde.
Ouais, après, je pense que j'ai bien donné à vélo, donc au
Ouais.
final, je me suis fatiguée les jambes, mais
Oui.
j'ai fait un beau vélo qui m'a beaucoup fatiguée, mais c'était génial. Le parcours vélo était vraiment top.
Ben encore bravo en tout cas. Je suis sûr que tu dois encore être un petit peu sur ton nuage. C'était plutôt vers la fin d'année dernière, non? C'est ça? C'était pas.
Ouais, c'était en août, fin août.
Ah, c'était fin août,
Fin août
d'accord. Bon, un
2020.
peu plus tôt que ce que je pensais. Alors, aujourd'hui, Bon, là, je suis sûr que ta saison elle est un petit peu chamboulée, hein, je pense que c'est le cas pour tout le monde, puisqu'on est actuellement en plein confinement. Mais je voulais qu'on discute un petit peu de comment aujourd'hui tu concilies en fait un entraînement qui te permet de te présenter à un championnat de France, Donc en temps normal, bien sûr, puisque ici les situations sont un peu particulières. Mais comment tu fais ça en temps normal pour concilier donc entraînement avec ta vie, on va dire professionnelle, enfin même si t'es en formation, parce que là donc certes tu me disais tu suis une formation de coaching spécialisée triathlon en alternance, mais ça ne correspond pas non plus à des séances d'entraînement toute la journée. Donc ça reste un environnement beaucoup plus formation finalement que formation sportive. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe au quotidien lorsqu'on est sportif et que du coup toi tu n'en vis pas, tu n'es pas sportif professionnel. En tout cas, si tu peut-être que tu le seras un jour, mais là aujourd'hui voilà, t'es en formation, t'es essentiellement dans un mode un peu étudiant. Comment tu fais à côté pour faire tourner un entraînement qui te permet du coup de te présenter ensuite à un championnat de France?
Donc, comme tu dis, ouais, je passe un DEGEPS triathlon et un BPGEPS activité aquatique de la natation. C'est ce qu'on a souvent tendance à dire, bah, tu fais une formation de coaching, donc tu as le temps de t'entraîner. Mais en fait, ça demande, enfin, quand je suis en alternance à Vichy et que je suis des cours, bah, c'est des cours du matin au soir. Ça laisse pas des heures d'entraînement possibles. Mais on a quand même possibilité de s'entraîner, bah, comme tout le monde, le matin, le soir. Donc, c'est ce que je fais. Je m'entraîne le matin. À la piscine, par exemple, je fais 7h, 8h30, 2 fois par semaine. Je m'entraîne le soir en course à pied. Pour le vélo, du coup, moi, je suis pas du tout adepte du home trainer. Je pense que c'est un très bon outil, mais j'ai beaucoup de mal à me motiver pour faire du home trainer. Je
Donc
préfère
quand tu dis
largement
home
l'entraînement à
trainer,
l'extérieur.
je te coupe juste
C'est
le home
les...
trainer, c'est les quoi les trucs sur lesquels tu montes ton vélo en gros, ouais, c'est ça. Hein.
Ouais, c'est ça. C'est en
Ça
fait...
remplace la roue arrière. Enfin, je sais vaguement ce que
Ouais.
c'est. Tu peux peut-être nous expliquer vite fait quand même.
Il y a plusieurs types de home trainer, mais en gros, c'est ça. C'est que tu poses ton vélo sur un socle qui te permet de pédaler sans avancer. Donc, soit on retire la roue arrière, soit c'est un socle qui permet de fixer la roue arrière
Ouais,
pour
j'en ai
pas
vu où
qu'elle
c'est des
bouge.
rouleaux, c'est ça? Il y en a où
Il y en
tu
a
pédales
aussi,
sur des
oui,
rouleaux,
avec des rouleaux.
ouais.
Donc, le marché home trainer a explosé pendant le confinement.
Sans
Il
surprise.
y a énormément de gens qui font maintenant du home trainer. Donc
Mais
ouais,
toi,
pour revenir
tu
à...
préfères être en extérieur, quoi, c'est ça?
Ah ouais,
Ouais.
carrément. Et c'est d'ailleurs aussi ça, je pense, qui m'a permis de performer en vélo, c'est le fait de voir le vélo comme une passion, un entraînement. Enfin, pas justement pas un entraînement, c'est juste du plaisir et pas un entraînement. Alors que, par exemple, la natation, je vois ça comme un entraînement et pas
D'accord.
je vais prendre 2 heures de plaisir dans l'eau.
C'est le fait d'en avoir fait une passion, ça t'a beaucoup aidé en fait pour ta progression dans le sport en fait.
C'est ça, c'est ça.
Ouais, ça
Donc
me parle.
voilà. Par contre, quand j'ai préparé les championnats de France, j'avais plus de temps parce que je n'avais pas encore commencé ma formation
D'accord.
l'été. Donc là, j'ai passé plus de temps sur le vélo, en natation, en course à pied. C'est presque un emploi du temps finalement de pro. J'avais le temps que je voulais. Après, comme moi, je suis assez jeune dans le triathlon, je ne pouvais pas avoir un volume considérable comme les athlètes pro, tout simplement parce que je serais trop fatiguée. Je ne pouvais pas encaisser en fait ce volume d'entraînement. C'est des choses qui se font sur plusieurs années. On n'arrive pas à 30-35 heures d'entraînement par semaine juste comme ça.
C'est sûr.
Donc en fait, je ne me suis pas entraînée à des volumes énormes. Bon, peut-être pour certains, ce sera beaucoup, mais j'étais entre 8 et 20 heures d'entraînement. Donc 20 heures, c'est pour les semaines de stage. Donc voilà, et maintenant actuellement, j'ai un peu baissé le volume parce que du coup, j'ai pas la possibilité de sortir en vélo comme tout le monde et que je n'ai pas envie de m'acharner sur mon entraîneur.
Ouais, c'est pas trop ton truc, ça, du coup.
C'est pas trop mon truc, malheureusement, parce que je pense qu'on peut vraiment progresser grâce à ces outils-là.
Bah, ça, c'est sûr. Enfin, j'ai pas mal de connaissances qui pratiquent ça. Et je veux dire, ils sont quand même très, très actifs, du coup, grâce à leur système d'entraînement à la maison. Mais c'est sûr que ouais, c'est pas. Enfin, je pense que les cyclistes et les triathlètes, du coup, doivent être quand même relativement embêtés pour ce qui est de pouvoir faire des sorties. Parce que bah, leur sport est interdit.
Ouais.
Et donc, du coup, c'est un peu la seule solution. C'est-à-dire qu'on est obligé de se tourner vers d'autres choses.
Ouais.
Donc, soit les entraînements à la maison, soit effectivement aller faire. Se rabattre plutôt sur le footing. Et pareil, j'imagine, pour la natation. Ça, c'est, pour le coup, ça doit pas être. Tu dois pas beaucoup t'entraîner là-dessus.
Bah oui, pareil, je fais du renforcement musculaire du coup, comme beaucoup, avec des poids, des élastiques, mais pas de natation. Et bizarrement, ça ne me manque pas tant que ça, la natation. Beaucoup plus le vélo.
Et donc, comment. Donc, bon, là, c'est sûr qu'on est dans une situation un petit peu particulière, mais donc sur un quotidien normal, donc là, si, quand les activités reprendront, que tu seras à nouveau en formation, qu'est-ce que tu vas avoir en gros comme rythme? Donne-nous un peu l'idée d'une semaine type pour voilà, quelqu'un qui a des journées pleines, mais à côté prépare quand même, du coup, j'imagine, un championnat de France 2021 peut-être?
Bah, peut-être qu'il aura lieu cette année, on ne sait pas, il a été reporté fin août.
Okay.
Donc peut-être cette année. Mais du coup, pour revenir à la semaine d'entraînement, je vais prendre l'exemple de quand j'étais juste avant le confinement en formation, en alternance. C'est deux fois par semaine, donc natation, voire je rajoute souvent une troisième et une quatrième si vraiment j'ai le temps. Mes deux grosses séances de natation d'une heure et demie, trois séances course à pied,
de combien de temps,
voire quatrième si je rajoute un footing. Donc de 1 heure, 1 heure à 1 heure et quart à peu près.
Ouais.
Donc deux séances souvent qualitatives, comme on dit, une séance plutôt VMA, une séance plutôt.
Attends, tu parles chinois. C'est quoi une séance?
D'accord.
Moi je sais, mais tout le monde ne sait pas.
D'accord. Donc une séance fractionnée court, on va monter
plutôt intense
cardio,
du coup, ouais.
Très intense, avec souvent des périodes très courtes d'entraînement de courte durée, puis de la récupération, et on répète ce circuit. Et le seuil, c'est à peu près la même chose, avec des fractionnés plus longs où on va plus être à l'allure course. Donc, ça va être allure 10 km, par exemple, allure semi.
Mm-hmm.
Mais donc, ça reste des séances qualitatives avec de l'intensité.
Ouais.
Et donc, deux séances par semaine. Et ensuite, deux footings où là, on est vraiment à des allures très cool. Mm. Et généralement, on a tendance à aller trop vite justement sur des footings alors qu'ils sont là vraiment pour travailler l'endurance fondamentale et pas pour développer des capacités de vitesse. Moi, mes footings, par exemple, je les fais à 5:30, 5 minutes 30 au kilo.
Mmh.
Et je suis à 3:40 sur un 10 km.
Ouais.
Donc, il y a vraiment une grosse différence. Donc ça, c'est pour la course à pied. Et pour le vélo, c'est surtout le week-end. Moi, je ne pense pas avoir un entraînement représentatif de ce qu'il faut faire en vélo parce que du coup, je ne suis pas assez axée home trainer. J'essaye tout récemment de me mettre au home trainer. Donc, j'ai intégré une séance par semaine, plus donc la sortie longue du week-end le dimanche et une sortie aussi le samedi un peu plus qualitative comme en course à pied, donc avec des entraînements codifiés avec du fractionné. Voilà, ça revient à ça. J'intègre aussi du renforcement musculaire. Donc, je vais à la salle pour faire du renfo, du corps, bas du corps. Et ça, j'y vais en fonction de la période, on y va plus ou moins, mais une à deux fois par semaine. Et des étirements que j'aime beaucoup faire, ça j'intègre souvent le soir pour ce qui est récupération, parce que la récupération c'est très important. Étirements, massage, même avec des outils autres comme des foam rollers que j'utilise aussi. Et donc voilà, la semaine d'entraînement.
Ça fait quand même beaucoup d'heures d'entraînement, donc tu dois bien être ouais, dans la dizaine d'heures facile avec tout ce que tu décris, parce que certes, tu as tes entraînements natation, course à pied, vélo, et ça, je pense que c'est cela que tu comptes quand tu me dis que ça fait à peu près 9 heures et quelques d'entraînement, mais en fait, quand on rajoute tout l'à côté qui va être le renforcement musculaire, les étirements, etc., enfin, je pense que ça s'additionne assez vite, non?
C'est vrai que si on prend tout en compte, ça fait facile 10 heures. Ouais.
Ça s'additionne
Donc,
assez vite.
C'est vrai. Oui.
Alors, il y a un truc dont je
Mais
voulais.
Pour voir qu'en fait, un entraînement, par exemple, en natation peut aussi servir pour les deux autres sports. Enfin, c'est des sports vraiment complémentaires. Et on a souvent tendance à l'oublier. On a envie de faire. Et des séances qualitatives en course à pied et en vélo et en natation et placer le tout dans la semaine. Mais il faut aussi voir qu'il y aura des périodes où on va plus travailler un sport que l'autre. Et donc là, j'ai parlé d'une semaine type, mais parfois, on va un peu délaisser la course à pied, par exemple, pour plus travailler le vélo. Et donc, ça va un peu se jauger en fonction des périodes.
Oui, bah, d'autant que, oui, par exemple, le travail du corps, en fait, sera bénéfique sur le vélo parce que, donc, en fait, le fait de nager plus va renforcer ton haut du corps, va donner des épaules qui vont être plus fortes. Et du coup, pour maintenir une bonne posture sur le vélo, ça va être bénéfique. Donc, quelque part, c'est gagnant. Enfin, c'est gagnant aussi. C'est pas parce que tu as fait peut-être moins de vélo cette semaine et un peu plus de natation que tu vas être moins bonne sur le vélo. Mais j'imagine que l'important, c'est quoi? C'est quand même d'essayer de pratiquer au moins une fois tous les sports chaque semaine, comme objectif, non? Même si tu
Oui,
devais
après, c'est vrai
prioriser.
qu'il faut quand même garder un rythme dans chaque sport. C'est juste après au niveau de l'entraînement, de ce qu'on va faire dedans, qui va changer. Donc, globalement, voilà, les entraînements vont être à peu près les mêmes. Je vais toujours aller deux, trois fois nager, mais à l'intérieur, on va faire des choses différentes.
Alors, il y a un sujet sur lequel je voulais aussi qu'on vienne. Donc, toi, tu as privilégié une alimentation végétale, ou en tout cas majoritairement végétale, ce que tu me décrivais. C'est une pratique qu'on n'a pas encore discutée sur le podcast. Et donc, du coup, j'aimerais vachement que tu nous racontes ce que ça représente pour toi. Et surtout, pourquoi? Ça, c'est important aussi. Quelles ont été tes motivations? Comment t'en es venu à ça? On va peut-être commencer par là, d'ailleurs. Et puis ensuite, tu me diras exactement ce que tu fais.
Alors, j'ai découvert l'alimentation végétale il y a à peu près 4 ans. Donc, avant en fait que je me mette vraiment à faire du sport à outdoor, comme je dirais.
Ouais.
Donc, en fait, j'avais pas cette optique de « il faut que j'optimise mon entraînement via une alimentation qui convient ». C'était à la base pour… l'environnement, pour la protection animale, c'était vraiment dans une optique de je veux essayer d'améliorer mon comportement pour permettre un meilleur environnement. Et donc, c'est pour ça que je me suis mise à l'alimentation végétale. Ensuite, je me suis mise au sport et là, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit ton alimentation, tu ne tiendras pas avec le sport parce que t'as pas tel ou tel nutriment, ça va être vraiment compliqué. En final, j'ai quand même testé, j'ai gardé mon alimentation parce que c'était des valeurs que je voulais pas laisser de côté.
Ouais.
Et j'ai vu que ça marchait en fait super bien. J'ai pas du tout eu de soucis. J'ai même, je pense après m'être documentée, finalement ça collait très bien. Donc, j'ai une alimentation plutôt végétale, c'est-à-dire que je mange pas de poisson ni de viande. J'ai à la base, donc j'ai beaucoup renseigné sur le véganisme et je me suis dit, voilà, moi aussi je veux être végane. Et en fait, je suis rentrée dans un peu dans une boîte où je me suis dit, bah, les véganes, ils mangent pas ça, 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 ils font ça, ça, ça. Donc, j'ai voulu faire pareil. Donc, je mangeais ni œufs, ni produits laitiers. Et finalement, avec le temps, je me suis dit, ouais, les véganes, ils font ça, mais est-ce que c'est vraiment moi ce que je préconise? Est-ce que c'est vraiment moi ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de manger? Et finalement, je me suis dit, bah, moi, les œufs des voisins, c'est des poules qui sont heureuses, qui sont bien élevées, qui sont très bien là où elles sont et qui pondent des œufs, ça me dérange pas du tout d'en manger. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, bon, bah, je vais un peu adapter mon mode de pensée, ce que et l'adapter vraiment à moi. Donc, j'ai recommencé à manger des œufs, j'en mange toujours, donc c'est pour ça que j'ai dit alimentation végétale. Et j'ai arrêté les produits laitiers pendant 2-3 ans. Et maintenant, en fait, je reprends des produits laitiers. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai fini par me dire, là aussi, pourquoi est-ce que je mange pas de produits laitiers? Et est-ce que c'est pour l'environnement? Est-ce que ça a vraiment un impact? Et je me suis dit, bon, l'impact de ne pas manger de produits laitiers, qu'est-ce qu'il a sur la planète? Est-ce qu'on peut pas plus faire d'autres actions qui permettent de limiter notre impact que ne pas manger de produits laitiers. En fait, c'est devenu une contrainte pour moi de ne plus en prendre. Et j'ai préféré dire, bah, finalement, je peux manger des produits laitiers quand je veux. Enfin, une fois de temps en temps, c'est pas pour autant que je vais me boire un verre de lait ou que j'en prends au quotidien. C'est bah, s'il y en a, je ne me restreins pas à ne pas en prendre.
Ouais, tu les
Donc,
exclus pas
finalement,
systématiquement, d'accord.
exactement, ouais, je ne les exclus pas, je me l'interdis pas. Néanmoins, et c'est pas du tout, ça fait pas partie de mon alimentation au quotidien. J'ai une alimentation vraiment végétale, mais voilà, je peux intégrer parfois dans des gâteaux, s'il y a du lait, ou du fromage blanc, ou je vais quand même en prendre. Après, tout produit laitier, j'essaye quand même de le remplacer par d'autres substituts au quotidien. Parce que là, pour le coup, au niveau performance, je pense que c'est pas une bonne chose de prendre des produits laitiers.
Vas-y, explique-nous un petit peu pourquoi.
Alors, je suis pas experte, hein, je suis pas dans la nutrition.
Non, juste
Au niveau de la
pourquoi tu as trouvé ça
digestion,
intéressant, justement?
bah à la base, il faut voir que le lait, en fait, il est fait pour un veau, il n'est pas fait pour un être humain. Et je pense que l'assimilation ne se fait pas du tout de la même façon. Et que peut-être pour un bébé, bon, alors là, je me lance dans des choses, mais c'est un bébé, ça peut être bien pour sa croissance. Mais une fois que maintenant, on est bien développé, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que ça apporte des choses qu'on n'a pas autre part dans le lait? Je ne pense pas. Donc, voilà.
Et du coup, là, donc, c'est vrai que quand on parle de produits laitiers, il y a vraiment en fait un peu deux familles de produits quand même, parce que tu vas avoir le lait et ensuite tu vas avoir les produits transformés, donc yaourt, fromage blanc, fromage et enfin etc. Et donc là, et quand je dis transformé, c'est pas dans le sens industrialisé, hein, c'est juste un second degré. D'ailleurs, on a une très bonne définition des différents niveaux de transformation dans notre podcast avec Benoît Neuf qui nous l'a très bien expliqué. Donc le premier niveau de transformation, c'est typiquement ton fromage, et ça, pour le coup, ça peut avoir des bénéfices pour la flore intestinale, des choses comme ça, parce que ça va t'amener en fait des bactéries qui peuvent être très bonnes pour ton organisme. Donc en soi, c'est pas complètement. Enfin, si tu considères d'un point de vue éthique que ça marche pour toi et que t'as aucun problème d'allergie vis-à-vis des fromages, pourquoi pas, après tout, hein, je veux dire,
Oui,
y a
c'est vrai
clairement des
que
bénéfices qui viennent avec ce produit.
c'est. Et Et on parle aussi beaucoup de lait de chèvre, par exemple, pas qui vient de la vache. Souvent, on dit que le problème, en fait, c'est le lait de vache. Et que, en fait, les produits laitiers qui viennent de la chèvre ou d'autres animaux sont tout à fait assimilables par l'organisme.
On y avait touché sur sur le podcast d'ailleurs. Enfin, moi, ce que j'en avais compris, après, c'est pas non plus forcément un domaine où je suis ultra lettré, mais de ce que j'avais compris, c'est qu'en fait, certains types de caséine sont plus allergènes que d'autres. Hein. Et la caséine A1 qui est très présente chez les bovins serait donc, mais pas chez toutes les races. Donc ça dépend encore une fois des races concernées. Mais la caséine A1 est très présente du coup dans le lait qu'on va trouver, et non pas forcément dans les fromages. C'est pas toujours les mêmes variétés de vaches en fait qui produisent les fromages que celles qui produisent le lait. Et du coup, la caséine A1 est beaucoup plus représentée dans le lait, ce qui fait pourquoi souvent les gens trouvent ça beaucoup plus indigeste. Versus des gens qui auront beaucoup moins de problèmes avec le fromage. Et là, on parle en dehors d'intolérance au lactose. C'est encore en dehors de ça. Ça, c'est ce que j'en sais. Après, ce que ça vaut, voilà. Après, je n'ai pas mis le nez plus de gens que ça, mais ça, c'est vachement cohérent par rapport à ce que tu dis, en tout cas.
Et en plus, pour ajouter, au niveau du lait, aujourd'hui, il n'a plus du tout les mêmes qualités nutritives qu'avant. Et je pense que si vraiment on veut prendre du lait, il faut prendre du lait de vaches qui sont bien élevées, bien traitées, parce que du coup, il va avoir plus de nutriments. C'est comme la viande, en fait. La viande, actuellement, si elle est maltraitée, si elle est bourrée de produits qu'on leur injecte, la viande ne sera pas bonne. Et en fait, on parle de qualité de la viande. Si elle est plus du tout nutritive, elle nous apporte plus du tout les mêmes choses en fait qu'avant.
Oui, et d'ailleurs pour ceux qui mangent toujours de la viande, je pense qu'il y a un exemple qui va peut-être être très parlant. Si on achète par exemple une volaille de supermarché versus une volaille, on va dire le poulet de Bresse, on va aller un peu dans le luxe du produit. On va voir à la cuisson que ces deux animaux en fait ne sont pas du tout les mêmes. C'est clairement deux choses différentes. Typiquement, on va avoir une chair beaucoup plus ferme, on va sur les poulets de meilleure qualité, va beaucoup plus se tenir. Versus, essentiellement, on a un peu l'impression, enfin un truc qui se délite complètement, qui s'effondre. Il n'y a aucune tenue sur le poulet industriel. Enfin, et ça, c'est un exemple qui est super facile à reproduire, je pense, pour parler de la différence de production. Et pour le coup, je pense que c'est aussi vrai. Après, je suis pas agriculteur, mais enfin, je le vois juste en tant que passionné de nourriture, hein, sur les produits végétaux aussi. C'est-à-dire que un produit qui a été fait de manière industrielle versus donc vraiment sur des grosses plantations qui sont un peu en monoculture sur un truc. Gustativement parlant, enfin, on connaît tous le coup de la tomate de supermarché qu'on trouve à toute saison, qui n'a pas de goût en fait. C'est même pas, elle est farineuse, elle n'a pas de texture, elle n'a pas de goût. Alors que tu prends ta tomate qui a poussé à côté de chez toi dans une exploitation qui va du coup privilégier beaucoup de choses. C'est-à-dire que le terrain est assez riche, ou même de l'agriculture régénérative comme certaines pratiques qu'on peut trouver comme ça. Donc ces deux tomates, tu les compares, il y en a une, c'est une tomate, et l'autre, on ne sait pas ce que c'est en fait. C'est une sorte de produit composé. Ça n'a pas de goût, c'est... Enfin, et ça t'engage des plats. Et je peux te dire, quand tu tombes dessus, t'as vraiment les boules. Hein. L'autre jour, on a voulu se faire un petit gratin, là. On voulait faire un petit gratin de légumes. Et on avait des mauvaises tomates, ça nous a gâché notre plat. Ouais. Du coup, ce que tu dis, c'est vrai pour aussi bien, en fait, pour l'agriculture animale que végétale, en fait. C'est super important, l'origine du produit, en fait.
Tout à fait, c'est vrai que c'est un bon point que tu mets, là. C'est que ça marche pour les produits animaux, mais aussi pour les produits végétaux. C'est pas parce qu'on va avoir une alimentation végétale qu'au final tout est réglé, tout est bien, on a un super impact pour la planète. Non, c'est vrai qu'il faut privilégier, bah, comme tu dis, le local, les fruits et légumes de saison, tout ça pour avoir les meilleurs nutriments possibles. Et en fait, les aliments complets, moi je consomme beaucoup d'aliments complets, des pâtes complètes, du riz complet, beaucoup de légumineuses. Donc, on ne peut pas avoir une alimentation parfaite, on ne peut pas avoir non plus un impact sur la planète parfait, parce que tout ce qu'on va consommer va avoir un impact, mais on peut essayer de faire au mieux. Et c'est vrai que les tomates dont tu parlais,
C'est affreux, j'ai
ça
horreur
n'a
de
juste
ça. C'est un sujet de
rien à
passion pour moi.
voir. C'est particulièrement les tomates, ça, il y a une différence énorme.
Le
Donc,
nombre de fois où
tomates
des
en
gens ont pu
hiver, on
m'entendre
dit.
pester là-dessus. Alors, du coup, donc toi, tu as opté pour. En fait, tu as créé ta propre alimentation. C'est-à-dire que y avait des étiquettes. Tu les as essayées. Ensuite, tu as dit, bah ouais, bah, c'est pas des étiquettes pour moi. Et du coup, tu t'es dit, bah, je vais faire le régime Aurélia Boulanger. Enfin, le régime. J'ai utilisé le mot régime, pardon. Tu vas pratiquer l'alimentation qui t'est propre, en tout cas. Et du coup, tu as trouvé ton bonheur là-dedans.
Voilà, je pense que ça se fait pas d'un coup, on change pas d'alimentation d'un coup, il faut aussi que le corps en plus s'adapte. Et aussi parfois, il y en a qui changent du jour au lendemain, mais le corps n'a pas le temps de s'adapter, donc ils disent en fait, bah non, cette alimentation, elle marche pas ou elle me donne des effets bizarres. C'est pareil en fait pour le minimalisme, on va pas revenir là-dessus, mais si on part du jour au lendemain, on va avoir des blessures. Si on court d'un coup 20 bornes en minimaliste, là c'est pareil pour l'alimentation. C'est des réflexions aussi. Je pense qu'il faut vraiment faire des choix. En fait, on choisit son alimentation et il faut être convaincu de pourquoi on fait ces choix. Oui, ne pas manger de viande, mais pourquoi? Sinon, en fait, ça crée des frustrations. Ou après, quand notre copain va me dire, bah, tiens, mange une bonne côte, ça sent bon, c'est cuit au barbecue, là, on a envie d'en manger, bah, on va être frustré. Donc,
Il faut
c'est.
savoir pourquoi tu fais les choses, en fait, que ça soit plus raisonné que la simple notion de j'ai adhéré à la méthode de quelqu'un et je m'y colle coûte que coûte sans savoir pourquoi je le fais. Ça, c'est sûr que c'est vachement important. Je pense que tu as raison là-dessus. Et en plus, tu soulèves un truc que je pense qui est vraiment important, c'est le fait d'adaptabilité, en fait, que tu peux pas juste. En fait, lorsque tu vas faire une transition vers quelque chose, il va y avoir un temps d'adaptation. C'est-à-dire que tes premières sensations ne reflètent pas forcément celles que tu vas avoir au début. Et par exemple, un sujet qui revient souvent, c'est que une alimentation purement végane risque d'apporter des carences, en tout cas. Mais le truc, c'est que au début, si tu pars d'une mauvaise alimentation et que tu te tournes vers ça, même si c'est quelque chose qui va pas te réussir, hein, c'est pas, tu vois, peut-être que plus tard, dans 2-3 ans, tu vas avoir des soucis. Mais imaginons que tu viens d'une très mauvaise alimentation, que tu manges beaucoup de fast food, beaucoup d'aliments transformés. Dès lors que tu vas te tourner vers ça, bah, ton corps va aller beaucoup mieux parce que c'est bien meilleur en fait dans l'échelle de santé. Même si derrière, hein, peut-être que dans 3 ans, il va falloir que tu lâches l'affaire parce que ça ne marche pas pour ton corps par rapport à ce que tes besoins. Au début, ça va paraître génial. Et pareil pour d'autres alimentations, tu vois. L'exemple peut se décliner un peu partout. Donc ensuite, c'est important de dire, bah ok, mais je suis allé par là parce que j'avais des convictions. Bah, du coup, je me recalibre un petit peu, je retrouve un truc qui est plus pour moi. Ma santé y est, mes convictions y sont, tu vois. Enfin, c'est un peu plus raisonnable. Enfin, moi, je suis pas adepte du tout ou rien, en tout cas.
Ouais, c'est ça, comme tu dis, faut s'adapter et c'est aussi en fonction de son environnement, en fait, de son lieu de vie, on peut avoir accès à certains produits qu'on ne peut pas avoir dans d'autres. L'alimentation, c'est pas quelque chose de fixé et aussi en fonction de son état de santé, on peut avoir des périodes où on a plus besoin de certains aliments que d'autres et c'est vraiment, voilà, ça change au fil du temps.
Ouais, bah, l'exemple que je prends régulièrement, c'est juste et qui est assez connu chez les femmes, c'est par exemple le besoin de plus de fer pendant les règles, tu vois, le cas classique, quoi. Où du coup, c'est à ce moment-là qu'on va observer une anémie, parce qu'en fait, il y avait déjà des carences, et du coup, ce besoin accru a fait que bah, ça s'est vachement ressenti, tu vois. Donc ouais, non, ça, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est aussi, puis bon, en dehors des simples cycles hormonaux, je veux dire, en fonction de ce que tu fais dans ta vie, pour les sportifs, il y a souvent cette notion de gestion des glucides. Tu sais, donc pendant les périodes d'entraînement intenses, finalement, tu en as plus besoin pour aller chercher cette intensité. Le reste du temps, ça t'apporte finalement pas grand-chose si tu es en train de faire de l'endurance pure et dure. Donc du coup, là, tu pourrais les réduire. Enfin, ce truc de jongler, en fait, en fonction de ce que tu es en train de faire dans ta vie. Je pense que c'est assez important. Je voulais quand même qu'on retape un petit peu sur ce que tu m'avais dit autour du minimalisme. Parce que donc tu m'avais expliqué que toi, tu avais commencé un petit peu le trail avec ça et que derrière, c'est quelque chose que tu avais abandonné. Enfin, abandonné. Que tu avais, que tu ne pratiquais pas de manière exclusive. Oui, c'est le meilleur choix de mots, je pense. Que tu ne pratiques pas de manière exclusive. Et j'avais trouvé ça intéressant, surtout qu'on en a beaucoup parlé. Et on en parlait un petit peu comme une sorte de pinacle. Tu sais, c'est par là qu'il fallait aller. Sauf avec, je pense, avec Jean-Philippe Le Fief, on était un peu plus dans un entre-deux où, en fait, on avait appris du minimalisme pour s'améliorer globalement. Toi, tu es un peu dans cette philosophie-là. C'est-à-dire que tu as quand même démarré avec ça. C'est quelque chose que tu pratiques. Donc, tu aimes bien ces chaussures minimalistes très fines sur le sol, mais tu n'utilises pas que ça. Et du coup, j'aurais bien voulu que tu nous racontes un petit peu ce que ça donne pour toi.
Alors, comme tu dis, j'ai découvert le minimalisme, en fait, un peu comme l'alimentation végétale, c'est-à-dire que je me suis dit, waouh, c'est génial, il faut faire que ça à fond. J'ai voulu convaincre tout le monde. J'étais vraiment persuadée, convaincue. J'ai découvert, en fait, le trail en même temps que le minimalisme. Donc, j'ai directement couru en sentier en minimaliste. Et j'ai quand même voulu prendre le temps, parce que le minimalisme, on dit beaucoup, il faut le temps d'adaptation. Mais je pense qu'au final, c'est quelque chose qui se fait sur plusieurs années, en fait, d'adaptation pour tout le corps. Et finalement, j'ai moi aussi sûrement été trop vite. Et moi aussi, j'ai eu les douleurs au mollet. Et en fait, du coup, j'ai réintégré une chaussure moins minimaliste dans mes entraînements. Et actuellement, en fait, je suis persuadée, moi en tout cas, que le minimalisme m'apporte beaucoup au niveau du pied, au niveau de la proprioception, au niveau du corps. Ça, j'en suis convaincue, mais je pense pas qu'il faille l'utiliser tout le temps. Donc, c'est pour ça que j'utilise des chaussures. C'est pas des énormes chaussures lourdes, mais j'alterne minimaliste, pas minimaliste, souvent sur des terrains en fait qui vont être plats. Par exemple, sur mes séances de seuil, j'aime bien mettre mes chaussures minimalistes. Donc, chaussures minimalistes, c'est des five fingers, c'est celles avec les doigts. Donc, c'est vraiment le plus plat possible, juste une protection pour les cailloux ou les bouts de verre qu'on peut avoir dans Paris.
3 mm ou 3, 4, 5 mm par là, je crois, deux semaines, hein, pas beaucoup plus. Hein.
C'est ça. Mais par exemple, en trail, je vais revenir sur une chaussure avec plus d'amorti pour protéger en fait le pied. Mais en fait, les chaussures minimalistes, elles permettent vraiment de renforcer tout le pied. Et je pense que c'est vraiment... moi, ça, j'adore courir avec ces chaussures. Je me sens libre, je me sens légère. Donc, c'est pas pour dire il faut courir comme ça, mais en tout cas, moi, ça m'apporte beaucoup.
Alors, hier, je discutais donc avec Blaise Dubois, qui est un peu la référence en termes de minimalisme. Et donc, on a parlé d'indice minimaliste. Est-ce que tu connais un petit peu cette échelle?
C'est plus ou moins épais.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est une série de critères en fait, qu'ils ont utilisés pour décrire les chaussures minimalistes. Et il m'a beaucoup parlé du poids de la chaussure. Donc, toi, quand tu vas vers des chaussures qui sont moins minimalistes, est-ce que le poids, ça reste un critère pour toi?
Ah ouais, c'est le critère principal, je dirais.
Ça ne m'étonne pas.
Parce qu'il faut absolument que ce soit léger. Je me sens mal avec des grosses chaussures lourdes. Et c'est pour ça que parfois, on peut voir des chaussures en fait, qui sont assez grosses, mais très légères, qui peuvent être une bonne chaussure qu'on peut alterner avec les minimalistes.
C'est d'ailleurs, je pense, l'exemple qu'on avait abordé, qui était des nouvelles Nike, qui sont très, très épaisses pour le coup, mais sont légères en fait, par rapport à beaucoup de chaussures de course. Et en fait, potentiellement, c'est peut-être même juste ce gain de poids qui correspondrait au gain de performance. Parce que... mais historiquement, ouais, les chaussures très, très épaisses étaient effectivement très, très lourdes. Bah, tu vois, moi, c'est pareil, je fais un petit peu comme toi. C'est-à-dire que, d'ailleurs, tu m'avais raconté une expérience que tu as faite. Tu as fait une course qui était un petit peu plus longue, où tu avais voulu faire un minimaliste et tu avais pas mal souffert. J'ai le même genre d'histoire dans mon parcours. Et du coup, derrière, de t'être dit, bon, peut-être pas pour tout alors. Pas minimaliste pour tout. Et parfois, il faut un peu autre chose. Donc, encore une fois, tu fais pas du purisme. Tu fais, t'as une pratique, t'as trouvé ton intérêt dedans, mais c'est pas dogmatique en gros, c'est ça.
Et du coup, toi, tu utilises à peu près comment en fait, proportionnellement?
Je pense que je suis majoritairement sur du très minimaliste, mais maintenant ça fait quand même des années que je fais ça. Donc j'utilise donc l'équivalent de ce que toi tu utilises pour tout ce qui est route, d'accord. Donc j'utilise pas les Five Fingers, mais je cours majoritairement avec des Vivo ou des Xero, qui sont du coup également très très fines. Hein. On est sur des chaussures assez réduites. Moi, c'est plus une question de distance que de terrain, en fait. C'est-à-dire que si je vais vraiment courir très longtemps, à ce moment-là, je vais mettre un petit peu plus sous mon pied parce que je sais que passer une certaine durée, je vais fatiguer et je vais peut-être avoir une forme qui va être moins efficace. Et donc, je veux un petit peu, je veux compenser un peu ça. Mais j'essaye de prendre le moins possible, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que, par exemple, je crois que ma paire de chaussures la plus épaisse que je possède, c'est une paire d'Altra supérieure. Et les supérieures, donc c'est le modèle le plus minimaliste d'Altra. Donc, je crois que ça fait. La chaussure fait quand même. Donc, c'est une chaussure de trail qui doit faire quoi moins de 2 cm, je pense, d'épaisseur quand même. Donc, ça reste à l'échelle des chaussures relativement fin. Mais ça, c'est le maximum. Et encore, ça, je les porte pas tant que ça, tu vois. Donc. Mais c'est vraiment pour les grosses, grosses distances parce que là, je sais que.
Ça fait plus la distance.
Ouais, c'est combien de temps je vais devoir courir. Et par exemple, je sais que j'ai payé le prix sur des courses longues où j'y suis allé avec des chaussures très, 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 très fines. J'ai une paire de sandales qui, essentiellement, si tu la tiens par le talon, en fait, elle plie au niveau du talon. Elle tombe comme une feuille de papier. C'est-à-dire qu'elles sont fines à ce point-là. Elles n'ont aucune tenue. Je les ai prises sur un 100 km route et c'était trop fin. Il n'y avait pas assez sous mon pied. Pour encaisser le dégât de 100 km sur du bitume. Tu sais, le bitume de route, en fait, est beaucoup plus dur que le bitume, par exemple, de route de campagne, est beaucoup plus difficile sous le pied que le bitume que tu vas avoir en ville.
Donc, c'est d'énormes gains. Tu l'as senti au niveau des mollets ?
Ah, j'étais pas tant des mollets, le dessous des pieds. J'étais complètement défoncé. J'avais les pieds ultra tendres à la fin. Alors, du coup, ça se ressent en fait sur ta tenue, parce que vu que tu as mal aux pieds, en fait, tu te crispes énormément. Et s'il y a une chose qu'il ne faut pas faire quand tu cours, c'est se crisper. Et donc, ça accentue ta fatigue. Je l'ai payé très, très cher, pour le coup. J'étais parti pour faire moins de 10 heures, hein, je crois, au début, et j'étais très très bien jusqu'à à peu près mi-chemin, où là j'ai commencé à sentir la douleur sous le pied, et je me suis retrouvé à faire, je crois que j'ai fait 12h30, un truc comme ça. Donc tu vois, j'ai vraiment perdu beaucoup de temps, alors qu'arrivé à quasiment à la moitié, j'étais pile poil sur la cible pour faire un moins de 10, qui était mon objectif du jour, tu vois.
Donc, ça aurait été bien pour la moitié, mais pas pour le full.
Ouais, tu vois, je l'ai payé très très cher parce que j'ai trop mal au pied.
Est-ce que c'était pas aussi une question de chaussures du coup? Parce que si t'avais eu des chaussures minimalistes, mais pas cette paire, peut-être que ce serait.
Alors, c'est un truc de finesse en fait, je pense. C'est un truc de finesse, c'est-à-dire que je pense que lorsqu'on met quelque chose entre nous et le sol, déjà on crée un artifice. Donc, tu as le fait de sentir. Sentir le sol lorsque t'es pieds nus, je pense que t'auras une meilleure gestion finalement que d'avoir quelque chose de très très fin sous le pied. Et donc potentiellement sur cette course là ce serait peut-être mieux passé si j'avais été pieds nus, parce que là du coup j'ai créé un truc un peu bizarre parce que j'ai mis un filtre mais pas suffisant, j'ai pas mis de protection en fait, j'ai juste mis un filtre, tu vois. Donc potentiellement ça m'a peut-être desservi. Par contre, ce genre de choses avec des. Si tu vas mettre quelque chose de plus épais, protège ton pied en fait. Si tu vas mettre quelque chose en dessous et le sol, c'est pour de la protection. Ça devrait pas être. Enfin, ça devrait avoir un sens, en fait. Et à part te protéger peut-être d'un sol très agressif, hein, donc imaginons tu cours sur des petits graviers un peu coupants, si tu veux performer, bah, il va falloir un peu de protection. Tu vois, mais par contre, c'est vrai que bah, y a certaines finesses. En gros, si tu as vraiment du papier à cigarette sous les pieds, enlève le papier à cigarette, en fait, ça n'a plus de sens. Tu vois, si tu vas mettre un truc que ça remplisse vraiment un usage. Enfin, moi, c'est ce que j'ai appris, c'est ce que j'ai appris dans ma pratique. Je sais pas si c'est valable pour tout le monde après, mais donc ça fait un peu écho à ce que tu disais en tout cas.
Et au niveau du pied aussi, la chaussure minimaliste, je trouve qu'elle est comme elle s'adapte vraiment au pied. En fait, elle est pas, il n'y a pas de bord comme les chaussures qui te forcent à être dans une certaine position dans la chaussure. Moi qui ai tendance à avoir le pied large, j'ai eu beaucoup d'ampoules avec des chaussures et là en fait j'avais plus rien, donc c'était vraiment une liberté vu que mon pied est vraiment large. Et donc ça c'est un point que j'aime beaucoup dedans, et j'ai du mal à trouver des chaussures qui me conviennent.
Comment tu fais pour le vélo d'ailleurs, tiens, je voulais te demander. Parce que les chaussures de vélo sont quand même généralement assez étroites.
Oui, c'est vrai. Donc, ce qui est bien, c'est que les chaussures de vélo de triathlon, en fait, souvent, c'est un gros scratch. Donc, elles sont souvent un peu plus larges. Donc, mais sinon, c'est des chaussures basiques. Mais comme pourtant, c'est des décathlons, je crois, mais elles sont assez larges, donc j'ai pas de problème.
D'accord.
Problème.
Bah écoute, tu vois, parce que moi je me posais la question pour les cyclistes, je me disais, si tu es coureur minimaliste et que tu fais du vélo, bah comment tu fais, quoi? Parce que c'est vrai que en général, ça ressemble plus à des escarpins que des chaussures quand même, sur le vélo.
C'est vrai. Et pareil pour la transition, en fait, mettre des five fingers juste après le vélo, on peut se dire, ça peut être compliqué de l'enfiler rapidement et bien. Pour courir juste après. Ça a été un peu mon dilemme quand je courais totalement en five fingers. Mais du coup, maintenant, sur les compétitions, je mets plus des chaussures tout de même minimalistes, mais qui n'ont pas enfilé les doigts.
Ouais, ça va plus vite. Ouais.
Et ça va plus vite. Et on n'a pas de charge mentale de dire il va falloir que je les mette bien.
Et du coup, ouais, surtout, si j'imagine, toi, tu les faisais peut-être quoi? Sans chaussettes quand même, par contre?
Les five fingers, je les mets avec des chaussettes pour question d'hygiène, de pouvoir laver les chaussettes, sinon ça a tendance à empester dans la chambre. Mais on peut. Ouais, toi, tu les mets pieds nus?
Non, moi je porte avec chaussettes, mais je me posais la question pour un triathlète, hein, parce que je sais qu'il y en a qui font ça, du coup, qui du coup ne portent pas de chaussettes du tout. Mais il y en a qui le font aussi. Ah, donc, oui. Je me disais, pour les five fingers, bah, si tu devais mettre des chaussettes, tu serais obligé de passer par les chaussettes à orteils. Du coup, puisque les five fingers ont les orteils. Du coup, je me posais la question.
Ah oui, c'est vrai que mettre des chaussettes à orteils sur triathlon, je crois que...
Ça serait un peu compliqué, non? Tu perdrais beaucoup de temps.
Ouais.
Et bah écoute, Aurélia, merci d'avoir répondu à toutes les questions et d'avoir partagé un petit peu ton expérience. Est-ce que tu peux nous dire où on peut suivre tes exploits et du coup, on l'espère, un triathlon, un championnat de France triathlon L 2020?
Merci beaucoup, Ben. Donc, on peut me retrouver sur Instagram Aurélia Run Trail, le pseudo. Et donc là, je poste les résultats, ce que je fais. Donc voilà, on peut tout là-dessus.
Super, merci beaucoup d'être venu. Je te souhaite beaucoup de chance pour le reste de l'entraînement.
C'est gentil, merci beaucoup à toi, Ben, de m'avoir interviewé. Et au plaisir de te revoir.
Quand on sera libéré.
Tout à fait.
Vous voilà à la fin de l'épisode. Et avant que vous vous empressiez de le réécouter, je veux vous remercier pour les messages de soutien, les commentaires que vous m'envoyez. Ça me motive vraiment pour continuer. Aujourd'hui, je vous partage le commentaire de Chris Santé. Très belle découverte, Ben aborde des sujets variés autour de la santé en profondeur avec ses invités, ce qui nous permet d'apprendre et de réfléchir sur notre rapport au thème traité. J'adore. Merci Chris Santé. J'essaye effectivement d'honorer le point de vue de mes invités, même si mon opinion diffère, et si possible, de me faire l'avocat du diable pour qu'ils puissent défendre leur vision dans un cadre respectueux. Merci à tous de votre fidélité, et à bientôt pour un prochain épisode.